Roméo et Juliette de Prokofiev avec Andrei Gavrilov au piano. C'est bien entendu le générique de Vendredi Théâtre, quatrième saison de Vendredi Théâtre. Je suis avec les chroniqueurs, presque tous, puisque Tito n'est pas encore arrivé. Les chroniqueurs de Vendredi Théâtre, je suis avec Robin. Bonjour Robin.
Bonjour.
Je suis avec Grazia. Bonjour Grazia.
Bonjour.
Et je suis avec Christopher. Bonjour Christopher.
Bonjour.
Tu n'as pas encore de micro. Un premier plateau où nous allons parler d'un spectacle qui se déroule actuellement au 13 vents. Il s'agit de Tambour dans la nuit de Bertolt Brecht. Et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Dag Jeanneret, bonjour.
Bonjour.
Frédéric Dufour, bonjour. Bonjour. Et Barthélémy Méridjan.
Bonjour.
Est-ce que j'ai écorché votre nom ?
Oui, un petit peu.
Un petit peu.
Mais c'est Méridjan.
Méridjan, j'hésitais entre les deux. Alors, Tambour dans la nuit, il s'agit donc d'une pièce de jeunesse de Bertolt Brecht. C'est une pièce qu'il a écrite en 1919. C'est sa deuxième pièce. Il avait écrit Bal juste avant, je crois. Et Tambour dans la nuit, donc écrite en 1919, sa deuxième pièce. C'est un Brecht encore débutant dans l'écriture théâtrale. Et je vois que Tito vient d'arriver. Et écrite en 1919, juste après la défaite des Spartakistes et l'assassinat de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht.
Absolument.
Est-ce que c'est bien cela ?
C'est exactement cela. Il commence la pièce, d'après ce qu'on sait historiquement, une dizaine ou une semaine ou une dizaine de jours juste après l'assassinat, fin janvier, de Liebknecht et de Luxembourg, assassinat perpétré par les sociaux-démocrates allemands.
Alors je vais essayer de faire le résumé de la pièce pour un petit peu situer. Au milieu d'une réunion de famille surgit Kragler, disparu sur le front pendant la Grande Guerre. Kragler, le spectre, l'animal à la bouche pleine de terre. Kragler que plus personne n'attendait. Voici qu'il demande sa fiancée, mais celle-ci s'est promise à un autre. Au loin, dans le quartier des journaux, gronde la révolution spartakiste. Kragler écoute l'appel des tambours de l'insurrection. C'est le résumé de l'histoire. Alors ici, tout le monde l'a vu, je pense que... Qui veut commencer à en parler ? Grazia, tiens, tu es juste à côté de moi, tu prends le micro.
Alors, je commence. Donc, on a parlé de Kragler, qui est ce revenant de la guerre de 14-18, pardon, et qui, en revenant, il revient le jour même où sa fiancée se fiance avec quelqu'un d'autre. Avec un monsieur, en plus, qui, à mon sens, c'est un arriviste qui s'est enrichi grâce à la guerre. Hein, donc, c'est un nouveau riche. Donc, il est aussi... le personnage semble aussi être imbu de lui-même. Enfin, le nouveau riche, quoi. Et du coup, Kragler se sent complètement trahi. Et sa fiancée donc le rejette dans un premier temps. Et donc lui, il commence dans une errance terrible qui, je me suis posé la question, est-ce que, bon, dans cette errance, il rencontre une prostituée qui l'amène sur le terrain de la révolte spartakiste à Berlin. Et je me suis posé la question de savoir si ce Kragler, il y va parce qu'il veut quelque part s'auto-détruire, chercher un moyen de s'auto-détruire, ce qui sous-entend aussi une grande déception de Brecht, à mon sens, par rapport à cette révolte qui a été écrasée dans le sang, dans l'assassinat. Et puis, ou bien parce que il. Donc c'est certainement il y va pour la destruction, mais est-ce que c'est parce qu'il a vécu la mort tous les jours qu'il veut se détruire, non, ou en se révoltant en quelque sorte, ou bien parce que, en fait, il fuit complètement la l'idéal petit bourgeois, quoi. Est-ce qu'il le fuit quelque part ou pas ? Parce qu'à la fin, il redevient complètement petit bourgeois. Il épouse, il préfère le lit
à la Révolution.
À la Révolution.
Je pense, mais alors c'est purement une interprétation, qu'il n'a jamais cessé d'être un petit bourgeois.
Ah voilà, c'est ça.
Alors, il a plein d'excuses parce qu'il s'est un déraciné. Tous ces gens dont Kragler fait partie, historiquement, il y a plus d'un million de troufions allemands qui sont revenus entre un peu avant l'armistice du 11 novembre 18 et dans les 3 mois qui ont suivi. Il n'y avait jamais eu de front de guerre en Allemagne, ce qui veut dire qu'il y a les fronts de guerre divers et variés étaient hors le territoire allemand. Donc reflux sur le territoire allemand, plus d'un million de soldats dans un pays exsangue, très humilié, très marqué par la défaite de la grande Allemagne. Et ces types, et en l'occurrence Kragler, le personnage de fiction, n'a plus connu l'Allemagne depuis 14. Donc il s'est passé 4 ans, mais en fait il s'est passé 20 ans. Enfin, on pourrait le dire peut-être comme ça. Donc, pour reprendre ce que vous dites, Grazia, oui, je ne crois pas qu'il ait un idéal. Son obsession, c'est de retrouver celle qu'il aime. Et puis, il y a cette chose étrange dans la pièce qui fait qu'il est un peu, effectivement, presque par hasard, attiré par la révolution qui est latente, qui est tout au bord, qui nimbe Berlin. La pièce se passe en une nuit, enfin de 7h du soir au lendemain petit matin. Et comme vous le dites, par le biais de cette petite prostituée Marie, il se retrouve au milieu d'un bistrot populaire du port de Berlin, tout près de l'épicentre de la révolte, des combats dans le quartier des journaux. Et très mystérieusement, il, presque malgré lui, sur un coup de tête, enivré, très saoul, il décide d'aller et d'emmener. Et il agit en, du coup comme un révélateur auprès de ce lumpenprolétariat qui vit dans ce petit cloaque, dans cette petite distillerie de schnapps. Et donc il emmène ces gens. Mais il est clair que, et je ne vais pas trop parler, il est clair que, je crois que c'est assez clair que c'est une chose suicidaire, c'est une envie de suicide. Mmh. L'idéal, et en l'occurrence l'idéal révolutionnaire, me paraît assez loin de la préoccupation de Kragler. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Brecht a eu beaucoup de soucis avec cette pièce plus tard, lorsqu'il devient une grande figure de la littérature allemande et du communisme. Lorsqu'il devient marxiste, dans les années 50, il écrit une chose qui s'appelle « En révisant mes premières pièces », où il revient donc sur ses 3 premières pièces de jeunesse, et il est tout au bord de... on a retrouvé une trace, il est tout au bord carrément de censurer cette pièce, parce qu'elle est effectivement pas très politiquement correcte, aux yeux du Brecht de la fin de la vie, en tout cas. Ça n'est pas une pièce marxiste, très clairement, contrairement à ce qu'un éminent journaliste aujourd'hui... ça n'est pas du tout une pièce didactique. Un éminent journaliste de la presse locale a eu la bêtise de dire dans un des 2 quotidiens du pays. Mais peu importe, ça n'est pas du tout une pièce didactique. C'est une pièce, effectivement, du début, pour le dire vite et mal, anarchisante, poétique avant tout. Et voilà, donc Brecht était très emmerdé, pour le dire clairement, à la fin de sa vie, avec cette œuvre qui était sortie de lui à toute pompe. Il l'a écrit dans un premier jet en 3 semaines, 1 mois. Ensuite, il l'a pas mal retravaillé dans les années 21-22, puisque la première création de la pièce ne se passe qu'en...
En 22.
Qu'en 22 à Munich, puis elle s'est reprise à Berlin un peu plus tard. Et c'est d'ailleurs la première pièce de Brecht montée en Allemagne. Mmh. Bâle a été monté plus tard. Mais voilà, donc, et cette pièce obtient un grand succès dans l'Allemagne, donc 3 ans après. Mais je ne veux pas tenir le crachoir trop longtemps.
Tito, je crois que tu voulais intervenir.
Non, mais j'allais enchaîner là-dessus, mais d'abord, une chose qui est surprenante dans la pièce, c'est déjà que ce n'est pas une pièce sur le spartakisme, ce n'est même pas une pièce sur la bourgeoisie allemande, même si la première partie en parle. Très nettement, le personnage principal, c'est le soldat et c'est le retour du soldat. Le thème de la pièce essentiellement. Après, le reste, c'est toile de fond. Tant le spartakisme que la vie des bourgeois et les enrichis avec la guerre, etc. C'est une toile de fond qui meuble le thème principal, qui font partie du thème principal. Meuble pas, ils font partie intégrante des différents aspects du thème principal qui est le soldat, le retour du soldat. Ça, c'est une chose. Et il y a une autre chose aussi. Qui est, moi, comme beaucoup de gens de ma génération, je me suis intéressé au mouvement spartakiste, surtout quand on n'était pas léniniste, on cherchait d'autres voies. Et c'est intéressant de voir que Brecht, visiblement, ça ne l'a pas beaucoup intéressé. Visiblement, il ne s'est pas beaucoup embarqué là-dedans. Et je crois que ça. Ça a à voir avec le fait. Je vais mettre la chose à l'envers. Je pense que des gens comme Brecht et beaucoup d'autres gens ont beaucoup adhéré aux thèses de la Révolution d'octobre, justement parce qu'elles étaient structurées. Enfin, il y avait une théorie politique et de la Révolution qui était structurée avec. Comme un ordre de bataille. C'était ça, c'est le mérite de Lénine, c'est qu'il a fait enfin à une théorie de la révolution comme une guerre qu'on mène et pour gagner. Et ce qui n'était pas le cas, souvenons-nous, à l'époque, c'était les anarcho-syndicalistes surtout, il y avait les socialistes et les sociodémocrates. Qui était plutôt réformiste, voire aller au combat de temps en temps aussi, pourquoi pas, mais ça dépendait des circonstances. Il ne reniait pas la révolution non plus, mais disons, il n'y avait que des théories qui n'étaient pas celles d'une guerre, disons, pour mener jusqu'à... c'est intéressant... de montrer, alors là ça devient vraiment intéressant de montrer cette pièce aussi pour montrer ce passage. Je crois qu'elle parle en creux du fait que Brecht n'est pas porté sur le spartakisme et sur cette théorie-là et qu'il va chercher plus tard, il explique peut-être en creux aussi le fait qu'il va adhérer après au marxisme-léninisme. Enfin, c'est mon point de vue.
Je peux répondre ?
Oui, bien sûr.
Je vais essayer d'être bref. Je suis assez d'accord avec vous, mon cher Tito. Mais je pense qu'il y a plus de hasard que ça. À savoir, Brecht a 19 ans, est très, très occupé par son début de carrière artistique et littéraire. Brecht était un type... ambitieux dès son plus jeune âge. Et ce qu'on a retrouvé, effectivement, c'est qu'il va au Conseil des ouvriers à Augsbourg, dans sa ville natale. Il ne prend pas la parole. Très peu. Il y a plusieurs témoignages comme ça, de concordants, qui disent qu'il en faisait partie. Il était, dirons-nous, sympathisant, mais sans une implication très nette et très claire. Et pour aller même plus loin, il était en fait, d'après ce qu'on a compris et lu, assez peu politisé à cet âge-là. Il y avait, on va dire, un désir de révolte contre un certain théâtre expressionniste qui tenait le haut du pavé à ce moment-là et contre lequel il avait envie de ferrailler, trouvant que les thèmes expressionnistes du renouveau de l'homme, de la rénovation, de la bonté de l'homme supérieur... était de la foutaise à ses yeux. Donc il était déjà, je pense, même si le mot me plaît qu'à moitié, c'était déjà une sorte de cynique à 19 ans. Et on peut supposer et comprendre qu'il n'a peut-être pas tant cru que ça à cette révolte spartakiste. Mais il y a un autre phénomène, c'est qu'il habitait, il était à ce moment-là entre Augsbourg et Berlin, et Munich, et que le gros, quand même, de la révolution spartakiste, c'est Berlin. Donc, il n'y était pas. Il n'y avait évidemment pas les moyens de communication d'aujourd'hui, très loin de là.
Il y a eu des soulèvements dans beaucoup de villes, entre autres dans le nord de l'Allemagne, à cause des marins, qui étaient historiquement, comme Kronstadt, comme les marins russes, pour partie, très engagés du côté spartakiste. Mais je pense qu'il avait des informations assez fragmentaires de la situation. Et de toute façon, la situation était historiquement assez confuse. Il y a des villes qui sont tombées aux mains des conseils des ouvriers. Sur un coup de dé, les types rentraient dans la mairie, prenaient la mairie, viraient le maire, et puis hop, ça restait comme ça. Et il a fallu... Le gouvernement et l'armée étaient aux abois, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque la révolution de 17 était juste une année auparavant. Mais tout ça s'est fait de manière assez confuse. C'était pas, comme vous le disiez, Tito, une révolution organisée. Même si...
T'as pas de micro.
Même si...
Le spartakisme n'était pas organisé.
C'est ça, absolument.
Voilà, c'est ça.
On dit bien la même chose. Même si Liebknecht et Luxembourg tentaient d'organiser les choses. Et on a même retrouvé des choses je m'arrêterai là. Rosa Luxembourg faisait des discours, par exemple, au Tierpark, au Zoo, à Berlin, des prises de parole publiques, avec un monde incroyable, parce qu'elle était une oratrice magnifique. Mais ensuite, sur les barricades, il y avait, moi je dirais malheureusement, un peu moins de monde. Et la classe ouvrière ne s'est pas engagée nettement dans la révolution spartakiste, ce qui est vraisemblablement la raison de son échec. Mais aussi, il faut dire, et je m'arrêterai là, que le gouvernement social-démocrate de l'époque, que dirigeait un bon gros bourgeois qui s'appelait Ebert, a été très malin parce qu'il y a eu dans ces années-là, dans ces mois-là, des concessions sociales faites à la classe ouvrière sur le nombre d'heures travaillées, sur le salaire, qui évidemment avait pour fonction non d'être très obligatoirement très très sincère, mais avait pour fonction de se garder le prolétariat de son côté. Et puis il y avait cette chose qu'on vit encore aujourd'hui, qui est finalement assez passionnante, qui est que, pour une partie du prolétariat allemand, c'était les sociodémocrates qui étaient au pouvoir, donc c'était, à leurs yeux, la gauche. Et alors là, ça rebondit, ça résonne formidablement avec aujourd'hui, lorsqu'on nous dit, par exemple, aujourd'hui, que nous avons un gouvernement de gauche. Et donc, donc effectivement, les gens avaient, je pense... sans faire l'historien de Bartaba, mais il y a une partie du prolétariat n'avait pas envie de se soulever contre un gouvernement qui était quand même de la gauche. C'était pas la droite, la vieille droite dure allemande. C'était des sociaux-démocrates qui étaient, comme tous les sociaux-démocrates, qui n'ont pas hésité à attirer quand il fallait sur le peuple, parce que ils sont toujours là pour le faire, à un moment donné, quand il y a urgence. Mais voilà, c'était la gauche, quoi. Voilà.
On va faire une petite pause musicale, une petite respiration avec un petit extrait du quatuor numéro 8 de Chostakovitch, transcrit avec un orchestre de chambre. Thank you. Et oui, nous sommes toujours dans Vendredi Théâtre, l'émission qui parle de théâtre toutes les semaines sur Divergence FM. Je rappelle que ce que nous venons d'écouter, c'est un extrait d'une transcription du Quatuor numéro 8 de Chostakovitch pour orchestre de chambre. Et je suis toujours, nous parlons toujours de Tambour dans la nuit de Bertolt Brecht, je suis toujours avec Dag Jeanneret, Frédéric Dufour et Barthélémy Méridgen. Qui n'a pas encore parlé, je voulais simplement dire au niveau de la langue de Brecht, la langue de Brecht de 1919, c'est quand même une langue sensiblement différente du Brecht de la maturité,
oui, me semble. C'est une langue plus libre, plus poétique, c'est un peu une lapalissade, mais si, quand même, c'est une... C'est une langue qui emprunte. On sait qu'il lisait beaucoup Rimbaud.
Oui.
C'est avéré. Et c'est une langue hybride. Moi, c'est ce qui me plaisait beaucoup dans la pièce, c'est qu'elle est le premier acte. On a l'impression d'un drame bourgeois à la Ibsen, mais à l'intérieur de même à l'intérieur de ce premier acte, il y a des échappées lyriques. De langue, Frédéric qui est à côté de moi, le personnage d'Anna, en a un par exemple, qui est complètement décalé avec la situation. Lorsqu'elle fait un récit d'un cheval à qui le personnage de Mourque a piqué les yeux. Et c'est par exemple vraiment un écart de langue à l'intérieur d'une structure linguistique nette. Et après, il y a l'acte 3, et je dis entre nous que c'est un acte partiellement claudelien, qui ressemble à Claudel. Voilà, il y a la pièce recèle plein finalement, même, on pourrait dire, de langues différentes à l'intérieur d'une seule pièce. Et c'est ce que je trouvais assez passionnant. Mais c'est ce qui fait que certaines gens considèrent la pièce comme trop hybride, trop hétérogène... Moi, je trouve que cette hétérogénéité, voilà, j'y suis arrivé, me plaît beaucoup.
À signaler aussi que c'est une nouvelle traduction hein, qui va paraître prochainement aux éditions de l'Arche.
Qui est paru il y a un mois aux éditions de l'Arche.
Christopher va parler, puis après, ça sera Robin qui donnera son point de vue.
Bon, je vois qu'on a déjà pas mal parlé du fond. On voit que c'est une pièce plutôt dense hein, et assez complexe. Mais moi, je voulais revenir d'une manière plus pragmatique sur la mise en scène et sur la scénographie. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé l'esthétique très, très belle en termes... c'était un beau spectacle en plus, hein, sur la scène et les décors, comment c'est monté. À la fin, je suis assez subjugué par ce grand carré blanc, ces couleurs bleu, blanc qui arrivent. Là, je voulais vraiment. C'est un vrai plus, j'ai trouvé ça très très beau. Donc voilà. Voilà mon point de vue là, sur cette mise en scène. Ensuite, je voulais savoir là, une question plus personnelle. Du coup, pourquoi ce choix? Pourquoi monter Tambour dans la nuit? Là, maintenant, tout de suite.
Oh là là. C'est une célèbre question. J'ai l'habitude de répondre dans ces cas-là quand on sait beaucoup mieux a posteriori. Et ça n'est qu'une demi-boutade. Je crois que c'est souvent vrai. Alors après, les metteurs en scène font du blabla, un peu, bon, voilà. Mais et c'est souvent a posteriori qu'on comprend un peu mieux ses propres choix. Bon, alors, cela dit, je m'étais décidé comme ça à monter une pièce de Brecht. J'ai relu des choses, pas tout, hein, mais pas mal de choses. Et... J'étais finalement intimidé, impressionné par les pièces dites de la maturité. À tort, peut-être, parce que maintenant, ça me donne envie de continuer. Sur les grandes pièces comme Puntilla ou comme Arturo Huy. Donc, je me suis assez vite recentré, comme disait l'autre, sur les pièces de jeunesse. Il y en a trois. Bâle, Tambour et Dans la jungle des villes. Bâle est une pièce magnifique, une espèce d'éclair de poésie comme ça, mais que j'ai toujours trouvé très abscon, ou que je n'ai jamais vu bien monter. Et j'avais une peur bleue de m'attaquer à ça. Je dois dire que je pensais...
C'est vrai que c'est un monstre, Bâle. Hein.
Je pensais que, voilà, je n'avais pas les moyens, vraisemblablement pas les moyens d'y arriver. Tambour, donc, qui est la deuxième pièce, m'a excité tout de suite parce que, bon, il y a cette langue dont on parlait tout à l'heure. Moi, je suis quelqu'un qui tente de s'intéresser à la langue et qui suis ému par la langue. Mais aussi, il y avait, parce que je tente quand même toujours de faire un théâtre accessible,
à un certain nombre, ou comme on dit, au plus grand nombre, même si on sait bien que le plus grand nombre ne vient pas assez au théâtre, malheureusement, il y a une fiction, il y a une fable dans Tambour, dont j'ai compris, mais je n'ai aucun mérite, il suffit de lire la pièce, qu'elle serait, et heureusement ça se confirme par le public aujourd'hui, et vraiment, et sans autosatisfaction aucune, donc une fable qui pourrait être, malgré la non-orthodoxie de la pièce, pourrait être suivie par le public. Il y a quelque chose de cette femme entre deux hommes qui est presque policier, pour le dire mal, et dont je savais que le public pourrait suivre cette histoire-là. Voilà. Et je me suis dit, voilà, il y a peut-être là un endroit, tout en étant très effrayé en amont par la difficulté de la pièce, et je le suis toujours d'un certain point de vue, mais je me disais, on peut trouver un vrai public et on peut intéresser des gens de A à Z. Et c'est vrai que les représentations... Hier, il y avait, je pense, 200, à peu près, peut-être plus de la moitié de la salle qui était des scolaires. Donc, on n'était pas très rassurés. Mmh. Et on s'est rendu compte que... alors, il ne faut pas faire d'angélisme, on sait que les scolaires... Mais de fait, qu'il y avait une assez belle écoute et que ça intéresse. Voilà. À plusieurs niveaux de langue, à plusieurs niveaux de compréhension. Mais ça réussit à intéresser un public assez large. Et voilà, c'est déjà pas mal.
Robin, très rapidement, tu peux donner ton sentiment.
Oui, mais juste sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que la première approche, elle est très agréable parce qu'on rentre dans ce drame bourgeois au début qui est rassurant. Il y a une critique éclatante du bourgeois, du gros bonhomme qui veut vendre sa fille comme un vulgaire sac à patates, qui pense que par les relations d'argent et d'intérêt. Et du coup, c'est vrai que cette partie-là, elle nous lance du coup dans un monde qui est assez connu et assez plaisant. Mais on est de suite dérouté par justement cette hétérogénéité de la seconde partie qui perd un peu les spectateurs dans des méandres d'un personnage qui est beaucoup plus complexe que le personnage du revenant, qu'on a du mal à identifier parce que on n'a pas conscience de ce que c'est qu'une personne qui revient de 4 ans de guerre et du fossé qui s'est produit du coup entre son entourage, entre le fait de rester dans la ville, la culpabilité aussi qu'il peut y avoir entre les locaux et ceux qui sont partis, et la question de l'amour, est-ce que l'amour peut survivre du coup à ce changement sur fond de révolution. Et du coup, ça m'a beaucoup un peu pris la tête à la fin de la pièce, parce que justement, cet aspect un peu nihiliste de finalement l'amour qui mène à la vie, au confort et au fait pour le personnage de retrouver sa vie d'antan. Après, on comprend le cri de vie qu'il y a chez ce personnage qui veut pas mourir face à la révolution. Mais du coup, ouais, la pièce devait être assez difficile à monter parce que la deuxième partie est très. Très confuse dans les sentiments, là, surtout au niveau des partisans qui m'ont moi assez fasciné en fait. Les partisans qui étaient dans ce bistrot, savoir pourquoi comment est-ce qu'ils sont venus à adhérer du coup aux thèses de ce militaire un peu incongru.
Je vais vous demander maintenant, parce que je vois que l'heure tourne, est-ce que ça serait possible d'avoir un petit extrait pour nous donner un petit peu une idée du...
Alors, la mort de Pompée de Corneille.
Allez, on y va.
On y va.
Mais qu'est-ce que tu as, Friedrich ? Tu es vraiment pâle.
Son gros rouge, c'est sûrement pour les fiançailles. Quelqu'un est venu ? Un homme est venu ? Pourquoi tu es blanche comme un linge ? Qui est venu ?
Personne, mais personne n'est venu, mais qu'est-ce que tu as ?
Alors pourquoi cette précipitation ? Arrêtez de me baratiner ! Bon, bah si, tiens, mais moi dans cette boutique, moi je fais pas de fiançailles.
Et qui parle de fiançailles ?
La vieille. Seul l'œil du maître voit gras son bétail. Hein. Mais bon, pourquoi pas ?
Tu fais toujours comme si c'était mes parents qui y tenaient. Mes parents, Dieu sait qu'ils n'y tiennent pas. Pas pour un clou.
Et quand as-tu fait ta première communion, au juste ?
Je veux juste te dire que c'est un peu facile pour toi.
Ah bon ? L'autre ?
Je n'ai rien dit au sujet de l'autre.
Mais il flotte par là, il est là, il rôde par là.
C'était tout autre chose, c'était ce que tu n'arriveras jamais à comprendre parce que c'était spirituel.
Et ce qu'il y a entre nous, c'est charnel ?
Ce qu'il y a entre nous, c'est rien.
Mais là, hein ? Là, c'est quelque chose.
Tu n'en sais rien ?
Hein ? On va bientôt changer de ton ici.
C'est ce que tu crois ?
Mais je demande ta main.
C'est ça ta déclaration d'amour ?
Non. Elle viendra plus tard.
En fin de compte, c'est une fabrique de paniers.
Tu n'es qu'une canaille. Ils n'ont de nouveau rien flairé la nuit dernière.
Ah, oh, Friedrich, ils dorment comme des taupes.
Pas nous, hein.
Filou.
Canaille.
Tais-toi un peu. Il y a un train qui passe dans la nuit, tu entends? J'ai parfois peur qu'il vienne, ça me glace le dos de haut en bas.
La momie? Je m'en charge. Écoute, je te lis, il faut qu'il dégage de cette histoire. Hein. Pas un type refroidi entre nous dans le lit, j'en veux pas un autre à côté de moi.
Ne te fâche pas, Friedrich, allez, pardonne-moi.
Saint Andreas, fantasme, qui ne survivra pas plus à notre mariage qu'à son enterrement. On parie? Je parie, moi, je parie un enfant.
Oh, ne dis pas une chose pareille.
Et comment? Allez, venez, maman. Bonjour, papa.
Et là, on passe à une autre scène. C'est une scène de l'acte 1. Entre le nouveau prétendant, le fiancé, le charmant Mourk, l'arriviste dont vous parliez au début, et Anna, l'héroïne tiraillée entre ce nouvel amant marron et l'ancien artilleur Kragler.
Et la pauvre Anna se fait traiter de canaille par le futur fiancé et de putain par l'ancien fiancé.
Par le nouveau, si elle souhaite traiter de pute.
Mais parce que c'est une canaille d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est un personnage assez double, non? Enfin, c'est comme ça quand on le comprend, parce qu'elle a.
C'est vrai.
Elle est à la fois une jeune femme qui est l'archétype de la fille bourgeoise bien sous tout rapport et qui en même temps une relation sexuelle débridée avec un type assez dégueulasse qui lui met la main au paquet dès qu'il peut. Donc il y a quand même quelque chose de. C'est vrai, il y a une double facette comme un. Bigou.
Hélas, l'heure tourne, on pourrait encore parler des heures de Tambour dans la nuit. Tambour dans la nuit, donc, de Bertolt Brecht, c'est au Théâtre des 13 Vents. Ce soir, c'est à 20h30 et samedi, c'est à 19h. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés pour ce premier plateau et on va se quitter avec un extrait toujours de Shostakovich, toujours de ce même quatuor.
Merci.
Moi, j'avais une question.
Et oui, on va être obligé d'interrompre Dimitri Shostakovitch. Cet extrait donc d'une adaptation du Quatuor numéro 8 de Shostakovitch en symphonie de chambre, et je n'ai pas précisé que c'était l'orchestre de chambre de Prague avec Antonín Radil à la direction. Deuxième plateau de Vendredi Théâtre, il y a beaucoup beaucoup de monde dans le plateau. Sur le plateau, nous allons parler de l'usage des bottines qui a lieu à La Vista actuellement, un spectacle que moi j'ai vu il y a 2 ans, je crois. C'était il y a 2 ans à La Vista. Alors il y a beaucoup de monde dans le studio, c'est la compagnie Amarante, je pense, qui est là au complet. Donc je vais vous laisser vous présenter les unes et les uns et les autres. Alors, allez-y.
Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue au cabaret de l'usage des bottines sur Radio Divergence. Le cabaret, le cabaret, le lieu de tous. Chauve, poilu, imberbe, moustachu, le lieu de tout. Vos fantasmes, vos désirs, vos larmes, vos rires, amour et non-retour. Eh bien oui, mesdames et messieurs, je vais vous présenter les bottines. Alors vous ne la voyez pas, mais derrière son bar, derrière son journal, la digne, la maligne, notre aînée et notre droit chemin s'il en est un, voici Rose, mystérieuse, envoûtante, aux yeux de braise, mi-femme, mi-raisin, notre fureur qui vrombit et vole la poussière, Freddy. La petite, la roublarde, l'exploratrice, notre enfance qui sommeille et qui nous émerveille, voici Jojo.
Yeah.
Allez, vas-y, Freddy, une petite chanson.
Tu veux dire là comme ça, a cappella Bon alors, chers auditeurs, il faut juste que je vous précise que j'ai des valises sous les yeux et j'ai la voix à la cave. Hein. Ok, alors
vas-y,
soyez
Freddy.
Indulgents, merci. J'ai des petits creux le matin, j'ai la fringale l'après-midi, une petite bricole à chaque instant, ça me remplit si peu pourtant.
Elle mange, elle croque, elle bouffe tout le temps, elle mange, grignote, dévore, c'est effarant, tout ce qu'elle avale en peu de temps. Tartine, praline, saumon ou saucisson, elle bouffe énormément.
Allez Rose, on enchaîne. Ah oui, oui, c'est le moment tant attendu où, mesdames et messieurs, je vais vous dévoiler un secret. Nous autres, femmes, quand nous faisons l'amour pour la première fois lors d'un rapport hétérosexuel avec pénétration, eh bien, nous ne sentons rien.
Oh Rose, arrête, attends, il y a tout le monde qui nous écoute. Là.
Alors là, je suis sûre que l'une d'entre vous va se tourner vers son partenaire et lui dire
« Oh non, non, chérie, n'écoute pas, avec toi, c'était merveilleux
!» Mais croyez-moi, c'est vrai, et c'est normal. Et pourquoi est-ce que nous ne sentons rien? Eh bien, parce que nous sommes jeunes, hein, Jojo?
Oui.
Sans expérience, nous ne connaissons pas bien notre corps, et puis nous ne sommes pas très intimes avec notre partenaire. Alors, que faisons-nous lorsque nous faisons l'amour les premières fois et que nous ne sentons rien?
Oh. Ah.
Mais c'est le grand silence radiophonique. Mais enfin, monsieur, monsieur qui êtes derrière votre petit fourneau en train de mélanger vos petits oignons, allez. Madame, qui vous êtes en train de changer votre pneu là, sur le bord de la bretelle de l'autoroute. Allez, un petit peu de courage, nous sommes toutes et tous passés par là. Bon, d'accord, c'est moi qui vais le dire. Oh. Eh bien, on simule.
On fait semblant, bien dit Rose, et c'est pas évident de le dire.
Oui, alors Jojo, une petite chanson pour terminer.
Oui, oui, c'est vrai, j'aime me toucher, me caresser, me titiller, effleurer un peu mes frissons, glisser mes doigts partout, sereine. Je voudrais que ça dure l'éternité, mais parfois ça démange, ça picote. Ça gratte et ça brûle, ça s'enflamme. Je voudrais que ça se calme ou que ça saigne. Et la sueur me monte au front. Je serre les cuisses, ça va passer.
Les mycoses bactériennes ou bien chroniques, Gardnerella, chlamydia, condylome, craie de coq, cystite flambante, bartholinite, sans parler de la vaginite.
C'est génial tout ça. Moi, j'adore cette ambiance qu'il y a dans le studio aujourd'hui. Ça me donne envie de revoir, d'aller revoir le spectacle.
Ah,
Christopher, toi, tu étais dans la salle hier.
Je peux te dire, Florent, que tu peux aller revoir le spectacle sans aucun problème. On y passera un très très bon moment. Ce petit résumé, cette petite présentation de l'usage des bottines retranscrit très bien l'ambiance qu'on a eue hier soir au théâtre La Vista, merveilleux théâtre La Vista, qu'on aime beaucoup à Divergence. Voilà, c'était un spectacle cabaret, quatre jolies jeunes filles qui nous font... Non mais c'était parfait pour décompresser après une journée de boulot, de passer une heure et demie en votre compagnie. Cette idée de cabaret, j'ai beaucoup apprécié, surtout parce que vous montrez qu'on peut faire du cabaret en étant... tomber dans l'humour beauf ou vulgaire. Je me souviens d'un cabaret qu'on avait vu avec Florent au mois de juin et qui avait sombré dans un humour beauf et vulgaire et qui n'était pas qu'on n'avait pas trop apprécié. Et là hier, pas du tout. Bon ben voilà, on pourrait faire des chansons comme ça. À double sens ou au sens complètement. Là, c'est très direct, sans que ça choque non plus. Hein. Donc voilà, un bon moment de cabaret passé avec en compagnie de Tito, en votre compagnie, c'était très sympa. Vous disiez tout à l'heure que c'était un spectacle que vous aviez présenté il y a 2 ans et qu'il avait beaucoup changé. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez modifié puisqu'on vous avait reçu il y a 2 ans? En quoi tout cela a changé?
Peut-être que je vais juste dire avant que c'est un cabaret, évidemment c'est beaucoup de chansons, de danse, de chorégraphie, mais c'est aussi au départ des textes qui nous ont bousculés. C'est des textes sur le viol, sur la masturbation, sur le rapport à la nourriture, sur la prostitution. C'est des thématiques autour de la femme qui nous ont touchés, qu'on avait envie de partager sous cette forme cabaret. Donc effectivement, on a cherché des moyens de parler de choses pas forcément simples et faciles à aborder, mais avec des clés plus légères. Donc ce qui a changé, je pourrais dire que c'est déjà tous nos personnages ont mûri. On a vraiment fait un travail en profondeur sur nos rapports entre nos personnages, sur ce qui se passe aussi entre elles. Du coup, il y a d'autres histoires qui se tissent à travers tous ces numéros-là, qui, je pense, n'étaient pas vraiment là il y a 2 ans. Et on a affiné en fait notre discours. Les thématiques abordées se sont concentrées. Il y a de nouvelles choses qui sont arrivées, de nouvelles chansons, de nouveaux textes. Voilà, je dirais que la forme et l'envie est la même que celle d'il y a 2 ans. Mais voilà, les thématiques se sont affinées.
Et vraiment. Je dirais aussi que cette évolution des personnages a permis de changer des choses au rythme. Et que c'est un rythme beaucoup plus soutenu qu'on cherchait à l'époque et qui est là maintenant avec nous. Quoi.
Et on a aussi beaucoup plus de dérapages.
C'est ça qu'on aime.
On s'amuse beaucoup.
On va faire une petite pause musicale avant de se retrouver. Moi, j'aime bien les vieilles chansons, retrouver des vieilles chansons des années 30. Et là, on va parler d'une chanson, on va retrouver Fréhel avec « Sous le pont noir ».
La vieille radeuse aux yeux flétris, y a trop de lumière en plein Paris. Elle fait maintenant les environs dans les Renault et les Citroën. Sous le pont noir, route de Saint-Cloud, y a pas besoin d'être une poule de luxe. On n'y voit rien, mais rien du tout. La clientèle se laisse monter le cou. Naturellement, c'est là-dessous qu'on s'embusque quand ça ne prend plus sur le boulevard Rochechouart. Et c'est pourquoi, sous le pont noir, les sans-business sont toujours un espoir. Sous fond noir, c'est merveilleux. Y a des petites filles pour vieux messieurs. Elles leur font pssst, j'ai 14 ans. Arrêtez-vous, profitez-en. Mais on devine à leurs appâts que les mois de nourrice ne comptent pas. Sous le pont noir, route de Saint-Cloud, y a pas besoin d'être une poule de luxe. On n'y voit rien, mais rien du tout. La clientèle se laisse monter le cou. Naturellement, c'est là-dessous qu'on s'embuste pour présenter ce qu'on ne peut plus faire voir. Et c'est pourquoi, sous le pont noir, les sans-amour ont toujours un espoir. Quand c'est une dame qui tient le volant, c'est le vieux Julot de Ménilmontant qui s'approchant d'un air narquois propose la botte de fleurs des bois. Et ce qu'il y a de plus fort, c'est que très souvent l'auto s'arrête un grand moment. Sous le pont noir, route de Saint-Cloud, y a pas besoin qu'on soit un coq de luxe. On n'y voit rien, mais rien du tout. La clientèle se laisse monter le cou. Naturellement, c'est là-dessous qu'on s'embuste quand la volaille, hélas, vous laisse choir. Et c'est pourquoi, sous le pont noir, tous les sans-uns ont toujours un espoir.
Fréhel, sous le pont noir, vous êtes toujours sur Divergence FM, l'émission Vendredi Théâtre, et nous recevons la compagnie Amarante qui nous parle de l'usage des bottines. Et la compagnie Amarante est complètement déchaînée dans le studio. Ça fait une très belle ambiance, merci à vous. Tito, tu étais avec Christopher pour voir le spectacle.
J'ai pas grand-chose à dire, puisqu'elle elle le joue en direct. Donc,
C'est vrai qu'elle se débrouille très, elle se débrouille très bien toute seule.
Moi, je trouve que c'est intéressant. D'abord, c'est très souvent, le cabaret est abordé comme un truc juste comme ça, des chansonnettes, et puis on s'amuse un peu, et puis on danse. Et on oublie que la tradition, c'est qu'il y a quand même un thème, il y a quand même un message, plus ou moins sérieux, plus ou moins léger, selon les cabarets, mais je parle de l'histoire du cabaret. Et donc, il y avait toujours quelque chose. Et il y avait même des tableaux, hein, des choses parfois politiques, parfois... Ça dépendait des cabarets. Et je trouve que c'est très bien qu'il y ait un texte. Donc, il y a des textes. C'est une pièce de théâtre. Voilà. Ça, c'est bon à dire. Hein, parce que les gens... sinon, par exemple, moi... s'il n'y a pas de texte, moi, franchement, je ne suis pas client, par exemple. Donc, c'est pour ça que je le dis, pour les gens qui, comme moi, aiment bien les textes. Il y a un texte.
Alors, la compagnie Amarante, ce n'est pas que les bottines. Il y a aussi d'autres choses au programme. Parce que je vois que nous sommes aussi avec, de la compagnie Amarante, Cédric Bouillot. Et je crois que vous ne portez pas de bottines, vous.
Non, pas du tout. Non.
Et vous parlez d'un autre spectacle qui se déroule encore aujourd'hui à La Vista, un spectacle pour enfants. Ça s'appelle « Sur la route ».
Si. Bonjour, buongiorno, welcome, welcome in. Je suis Giorgio, marchand de rêve, grand voyageur et vagabond de luxe pour vous servir.
Della nove del sci, ispili della città.
E non ascolteranno, c'è il battito spronzo e il nostre catene. Oh no, Knut! Knut a disparu! Excusez-moi, vous n'avez pas vu mon petit camarade Knut? Il est comme moi, c'est un petit ourson.
Knut, où es-tu? Je me languis de toi.
Oh non! Le politicien! C'est un malentendu! Il ne ferait pas de mal à une mouche!
Oh politicien, que tu me sembles charmant avec...
Eh oui, retrouvons-nous donc au théâtre de la Vista, samedi à 10h et 16h, et dimanche, 10h et 16h aussi. Grazie, ciao, ciao.
Merci.
Désolée, on ne peut pas s'en empêcher. On n'aime pas se présenter normalement. On a besoin de...
Mais nous, on adore ça, Divergence. Nous, on adore ça. Hein. Donc, il y a deux spectacles. Donc, il y a de l'usage des bottines et Sur la route, au Théâtre La Vista. Théâtre La Vista, qu'on aime beaucoup, nous, à Divergence. On ne pourrait pas avoir, avant de se quitter, un dernier petit extrait des bottines ?
Oui, juste un tout petit élément que Cédric n'a pas dit dans son texte, Giorgio, c'est que donc il est musicien de musique actuelle et qu'on a monté un projet pour les tout-petits. C'est un spectacle qui se joue à partir de 3 ans, voire un peu plus tôt. Donc il ne faut pas hésiter à venir le voir en famille. Il y a de la musique actuelle, de la manipulation d'un petit ourson et ça joue pour tout le monde. Voilà.
Mais il y a quelqu'un de Divergence qui a été voir le spectacle, qui m'en a dit le plus grand bien et qui était venu avec un petit cobaye de 3 ans. Il aime bien avoir des cobayes de 3 ans.
Il adore ça.
Timothée.
Je l'ai reconnu.
Un petit extrait pour se quitter.
Allez, c'est parti.
4. À botte de souffle, ne reste pas droit dans tes bottes. Si on te botte les fesses, ne botte pas en touche. Le bruit des bottines est mieux que le silence des pantoufles. Yeah. Ni lèche-botte, ni cirage de bottines. Ta petite botte secrète, c'est que tes bottines s'apprêtent dans un grand tourbillon ou que tu barbottes si ça te botte.
C'est vachement bien.
Merci beaucoup. Je vois que l'heure tourne. On va rappeler donc le spectacle de l'usage des bottines. C'est à la Vista. Donc ce soir, c'est à 19h. Arrêtez-moi si je dis des bêtises. Samedi, c'est à 21h. Et dimanche, c'est à 18h30.
Tout juste.
Par contre, le spectacle Sur la route, je n'ai pas les horaires sous les yeux. Est-ce qu'on peut me rappeler les horaires ?
10h et 16h, samedi et dimanche.
Et toujours à la Vista.
Eh oui, voilà. Et la Vista. Théâtre merveilleux.
Allez-y, allez-y, tant que ça existe encore, la Vista.
Ouais,
donc,
ouais.
Vraiment un lieu où on a plaisir à aller et à se retrouver. Merci de nous avoir accompagnés pour ce deuxième plateau. Mais je crois que je vais retourner voir les bottines.
Merci à vous.
Ouais, merci beaucoup.
Eh bien, on va se quitter pour Vendredi Théâtre. On va se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour compléter l'actualité théâtrale, tout ce qu'on aura vu. Et on va se quitter avec un Jean-Guy Donic. Tous des putains sur une musique de Alain Bashung. Très bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.
espère un bon.